Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À la demande de Nicolas, 33 ans, de Fondette, Franck Ferrand se penche aujourd'hui sur un sujet bien mystérieux. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Sujet mystérieux, en effet nébuleux même, mais d'autant plus passionnant, surtout lorsque ce sont Giacometti et Ravenne eux-mêmes qui en parlent. Pour reprendre le titre de leur thriller, je vous propose d'évoquer cet après-midi le règne des Illuminati.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Amélie via la page Facebook de l'émission qui se demande pourquoi on parle de la Hollande pour désigner les Pays-Bas.
Mais justement, c'est pas tout à fait la même chose. Nous préciserons tout cela tout à l'heure. Pour le moment, l'heure est donc au mystère et aux grandes initiations.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Sans le personnage dont je vais vous parler maintenant, nous ne serions sûrement pas aujourd'hui ici pour évoquer les Illuminati. Le personnage en question, c'est l'abbé Augustin Barvel. Pour vous le situer, je dirais que c'est un contre-révolutionnaire. Et d'ailleurs, au moment où il va écrire l'ouvrage dont tout part, il se trouve en exil à Londres. On est en 1797. Quand je dis un ouvrage, vous savez, à l'époque, on avait la plume facile. Ça, c'est 5 tomes complets qui s'appellent, c'est très connu des historiens de cette période, bien sûr, « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Un livre qui, d'ailleurs, a, dans le milieu contre-révolutionnaire, connu à l'époque un vrai succès. Le propos de l'auteur est très clair. Selon lui, la révolution, qui a commencé quelques années plus tôt, en 1789, et qui fait la chasse au catholicisme, en 97, on est allé très loin, hein, ça fait déjà 5 ans qu'on a franchi toutes les bornes, n'est que le produit d'un complot ourdi dans les loges maçonniques et qui a pour origine les écrits des philosophes de la période des Lumières. Alors, résumé comme ça, on a presque envie de dire « Oui, et alors, est-ce que ça n'est pas plus ou moins vrai ?» C'est en tout cas la Vulgate, c'est l'image qu'on a conservée de cette période et de ses excès. C'est l'image qu'on a surtout de ses origines. Évidemment, il va loin, il va très loin, Augustin Barvel. Il détaille son projet dès les premières pages. Je le cite dans le joli style de l'époque. « Sous le nom désastreux de Jacobin, une secte apparue dans les premiers jours de la Révolution française enseignant que les hommes sont tous égaux et libres. Au nom de cette égalité, de cette liberté désorganisatrice foulant aux pieds les autels et les trônes, au nom de cette même égalité, de cette même liberté appelant tous les peuples au désastre de la rébellion et aux horreurs de l'anarchie, dès les premiers instants de son apparition, cette secte, le terme est fort, s'est trouvée forte de 300 000 adeptes soutenus de 2 millions de bras qu'elle faisait mouvoir dans toute l'étendue de la France, armée de torches, de piques, de haches, de toutes les foudres de la Révolution. Alors là, si on devait suivre l'abbé sur ses terrains pour le moins glissant, le moins qu'on puisse dire est que l'image que nous aurions de la Révolution serait assez différente. Alors, qui, selon lui, se cache-t-il derrière ce complot? Eh bien, selon lui, les fameux Illuminés de Bavière, avec à leur tête Adam Weishaupt. Barvel leur consacre 2 tomes entiers de son ouvrage, qui, je vous le rappelle, en mesure 5. À cette époque, les Illuminés de Bavière sont l'un des groupes maçonniques les plus importants d'Europe, sans doute même le plus important, et l'auteur aurait des preuves de ce qu'il avance. Il affirme que les philosophes français des Lumières, alors tous les plus grands noms, hein, Montesquieu, bien sûr, Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc., sont des francs-maçons à la solde des Illuminés et par leurs écrits anticléricaux ont préparé le terrain à la Révolution. C'est en tout cas ce qu'il nous dit. Les protecteurs des Lumières, Frédéric II de Prusse, le grand ministre Louis XV, Choiseul, étaient également, tout ça faisait partie en quelque sorte de la même chapelle. L'abbé, d'abord il faut peut-être que je vous dise en 2 mots qui il est, d'où il vient ce bonhomme, parce que évidemment quand on connaît son parcours et quand on sait d'où il vient, ses propos, sa façon d'envisager les choses sont peut-être un petit peu plus faciles à admettre. Il est né en octobre 1741, en plein milieu du règne de Louis XV, à Villeneuve-de-Berre, dans le Vivarais. Or, il descend d'une vieille famille écossaise, famille de vieille noblesse, implantée depuis 1303 dans cette belle région. Son père, qui s'appelait Antoine de Barvel-Saint-Pont, était lieutenant général du roi auprès du bailli, autant dire qu'il est responsable de, si vous voulez, de l'administration judiciaire de tout le bailliage, de toute la circonscription judiciaire de l'époque. Avec des idées bien arrêtées sur la société. Il a, avec sa femme, avec son épouse, ils ont eu 13 enfants, dont Augustin. On est dans une famille catholique, militaire. D'ailleurs, il suffit de voir ce que font tous les fils et filles. L'un des frères d'Augustin, Louis-Antoine, sera lieutenant général du roi. Deux autres sont au service du roi. Un troisième est colonel d'artillerie. Une sœur Thérèse qui va épouser un chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie lui-même. Camille de Barbel deviendra prieure de l'abbaye bénédictine de Charlieu, en Bresse. Et sa sœur est supérieure de la visitation de Valence. Vous voyez, on est vraiment dans la vieille France catholique et royale. Augustin est destiné à faire carrière dans les armes. Il va préférer la religion. Il fait d'ailleurs ses études au collège des jésuites de Tournon. C'est très important ça, parce que, évidemment, plus tard, il a différentes responsabilités en tant que jésuite, mais il ne faut pas oublier qu'on est précisément à l'époque où Louis XV, on avait parlé de ça, rappelez-vous, on avait raconté cette histoire de Louis XV chassant, expulsant les jésuites en mars 1764. À l'époque, notre Baruel n'a que 23 ans. Il est renvoyé dans sa famille et il comprend assez vite que son avenir est à l'étranger. Alors, il apprend que le confesseur de la reine Marie Leszczyńska, qui est un jésuite polonais, le père Biganski, est en train de recruter des jésuites français pour la Pologne. Il se dit, après tout, pourquoi pas, le voilà parti pour la Pologne. Entre-temps, à Prague, le provincial des jésuites de Bohême le retient pour sa province. Il y fait de la théologie, devient prêtre puis professeur de littérature dans un collège de Moldavie. Décidément, vous voyez le type de formation de ce bonhomme depuis le début. Il n'a vraiment pas de chance en même temps, puisque le 21 juillet 1773, le pape Clément XIV décide de supprimer carrément l'ordre des jésuites. Alors là, Augustin, comme ça a été le cas de beaucoup de ses coreligionnaires, est retourné en France. Et dès juillet 1774, il devient précepteur des fils d'un prince important, du prince François-Xavier de Saxe. Ça lui a servi quand même son petit séjour en Europe centrale. Il est ce prince François-Xavier, il est le fils du roi de Pologne, Auguste III. Il est frère de la dauphine, Marie-Joseph de Saxe. Enfin bon, ça fait que notre abbé va se rapprocher des milieux de cour, bien entendu. Il faut dire que les deux fils de François-Xavier de Saxe sont, si vous voulez, les cousins du roi Louis XVI. Ils s'appellent Louis et Joseph, ils ont 8 ans et 6 ans. Et dès cet été 1774, Augustin Baruel va devenir leur précepteur. Donc, il est précepteur de princes eux-mêmes très proches de la famille royale de France. Ça en ajoute encore un peu dans la formation, dans l'état d'esprit, dans la configuration mentale de notre bonhomme. C'est un changement de vie pour lui, bien entendu, un changement tout à fait positif. Du reste, ça ne durera pas très longtemps parce que déjà, on est là dans les premiers bouillonnements, on est dans les prodromes de la Révolution.
Deuxième acte de la flûte enchantée de Mozart. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Augustin Baruel.
Alors cet Augustin Baruel est donc le précepteur des petits princes saxons, un instructeur à la fois ferme mais compréhensif, avec une vaste culture, c'est très important. Il leur enseigne bien entendu toutes les humanités, etc., mais bien sûr la religion, mais il s'intéresse aussi à l'art, à la poésie, au théâtre. Il va écrire des pièces de théâtre, c'est pas rare hein, chez un jésuite, ça fait même partie de la tradition des jésuites. Mais tout ça va l'amener à manier la plume et à se dire qu'il dispose d'un talent particulier et il va comprendre assez tôt qu'il est en quelque sorte, qu'il a l'âme d'un polémiste. Voilà ce que nous dit Michel Riquet dans son livre sur Augustin de Barruel. Une nouvelle carrière s'ouvre à l'abbé de Barruel, on est en 1777, celle de l'apologiste, du polémiste, du publiciste qui va traverser la Révolution, l'Empire et la Restauration, avec un succès dont témoignent les multiples rééditions de ses œuvres et leurs traductions en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en polonais. Il aime l'écriture, cet homme-là. Il écrit en 1780 un ouvrage qui s'appelle « Les Elviennes ou lettres provinciales philosophiques » dans lequel il lutte déjà contre la philosophie des Lumières qui, selon lui, est en train de saper les fondements de cette société à laquelle il croit tellement. Il y a chez Barruel, d'ailleurs, il faut le dire, quelque chose, alors toute proportion gardée évidemment, mais quelque chose de du style de son principal ennemi qui est Voltaire, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le très grand sérieux de l'analyse de fond, et puis derrière quand même un ton assez léger qui est tout à fait dans l'esprit du XVIIIe siècle et qui ne manque pas d'ailleurs, il faut le dire, d'un certain humour. Il explique pourquoi, comme dans cet exemple sur la philosophie voltairienne, il faut, dit-il, pour gagner les hommes à la philosophie, voltiger et ne pas les contraindre à des réflexions trop suivies. Il faut les divertir, les délasser, les faire rire même aux dépens de ce qu'ils appellent leurs plus graves intérêts, un bon mot, une raillerie fine, un ton enjoué, un sarcasme bien assaisonné. Voilà le grand art de s'attacher ses lecteurs. Ça nous donne aussi ça quelques indices sur ce qu'il fera plus tard lorsqu'il écrira les fameux 5 tomes, évidemment, sur les origines de la Révolution française. Il la sent venir, cette révolution, dès 1788. Voilà un texte de lui que je trouve assez étonnant. Voilà ce qu'il dit. Ça fait peut-être un peu référence à notre époque aussi, d'ailleurs. « Le faux sage, en tout temps plus lâche encore que perfide, ne lève pas sans doute lui-même l'étendard de la révolte. Il se cache en soufflant le feu de la discorde, mais ses principes germent. Il laisse au temps le soin de les développer et celui d'amener les révolutions. Sa plume régicide échauffe avec le temps les cœurs et les esprits. C'est un feu qui longtemps a couvé sous la cendre, mais il éclatera. » Il ne se trompe pas. Il va bientôt suivre les événements de la Révolution et il le fera en tant que membre du clergé parce que il faut vous dire que d'abord, à partir de janvier 88, il est directeur de la rédaction du journal ecclésiastique, donc il fait des comptes rendus sur tout ce qui se passe et notamment sur la réunion des états généraux, etc. Et puis il y participe en tant que membre du clergé à ces états généraux. Voilà comment il parle de la journée du 14 juillet 89. Ça c'est dans une lettre qu'il adresse à sa famille. « J'en étais dans ma dernière lettre au moment où la garde bourgeoise s'était formée. La nuit du lundi ou mardi, elle s'était déjà établie partout, mais il y avait peu d'armes. Le mardi matin, on se porta aux Invalides en grand nombre pour demander au gouverneur toutes celles qui étaient dans l'hôtel. Il ne fit point de résistance, on eut bientôt forcé la grille. Les armes étaient cachées en partie dans les caves, partie dans le haut du dôme. » Alors il raconte ce qui se passe toute la matinée, etc. Et il parle de la fureur qui s'empare des esprits. On fait brèche à la porte de la Bastille, elle est prise. Le gouverneur conduit à la grève, massacré, sa tête et celle du commandant en second portée au palais royal et promenée dans les rues. Qu'on ne s'y trompe pas, l'homme auquel on a affaire est une belle plume. Il sait raconter un événement, il sait tirer les conclusions d'une situation, il sait surtout emporter ses lecteurs dans ce qui a l'air d'être en quelque sorte le mouvement de l'histoire. Vous me voyez venir, évidemment, il va décortiquer les origines de la Révolution française. Alors, du reste, ses opinions sont loin d'être des opinions extrémistes. Vous avez bien compris qu'il est issu d'une famille très militaire, très catholique, qu'il est passé par la Pologne, qu'il a été un instructeur jésuite des plus solides. Mais à côté de ça, c'est un homme qui n'est pas pour les privilèges. Il célèbre l'abolition des privilèges le 4 août 1789 et il a tout un texte pour louer tous les mérites de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Seulement, il y a deux choses qui vont lui déplaire. D'abord, la transformation des biens du clergé en biens nationaux. Ça, il n'est pas le seul. La plupart des ecclésiastiques ont été évidemment extrêmement choqués. Et puis surtout, à partir de 1790, ce décret de l'Assemblée nationale qui oblige les évêques, les curés, les vicaires, etc., à s'engager par serment, je cite, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse et de la paroisse qui leur sont confiés, d'être fidèles à la nation. À l'époque, ça voulait dire beaucoup, ça. Fidèles à la nation, ça voulait dire épouser les idées révolutionnaires. D'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Le moins qu'on puisse dire est que Louis XVI ne l'avait accepté vraiment que du bout des lèvres, cette fameuse constitution civile du clergé, mais elle est à l'origine de la levée de tout ce qu'il y a de religieux en France contre cette révolution qui, après avoir été plus ou moins bien accueillie, va devenir littéralement l'ennemi. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, c'est à partir de la Constitution civile qu'on voit Barruel commencer à parler du club des Jacobins comme d'une secte. Alors le tournant définitif, ben là encore, j'ai l'impression en fait de vous dresser un portrait du contre-révolutionnaire type. Le grand tournant, c'est évidemment le massacre du 10 août 1790, la prise des Tuileries par les gens de la Commune de Paris, la fin de son journal d'ailleurs. Alors là, on est à deux doigts de la chute de la monarchie, hein, qui est déchue tout de suite et puis bientôt remplacée quelques jours plus tard en tout cas par cette toute nouvelle première République française. Là, c'en est vraiment trop pour Barruel, qui s'exile à Londres. On peut dire qu'il était temps, puisque quelques semaines après, au moment des massacres de septembre, un grand nombre de prêtres réfractaires à cette fameuse constitution civile du clergé, vont être assassinés. Il est possible que Barruel, s'il était resté en France, ait fait partie de la charrette, si je puis dire. À Londres, il trouve refuge chez un ancien jésuite qui s'appelle William Strickland. Et là, alors là, il commence à tremper sa plume dans le fiel pour dénoncer cette révolution et surtout pour essayer de comprendre qui est à l'origine de ce qu'il considère comme un mal terrible. Alors d'abord, il rédige l'histoire du clergé pendant la Révolution française, qui est publiée en 1793 à Londres. Il revient d'ailleurs là sur la journée du 10 août et sur le traumatisme. Ce jour affreux, dit-il, un siècle et un chaos de fureur, de massacre, d'horreur, de carnage de la part des brigands, de perfidie, de scélératesse de la part des conjurés. Là, ça y est, on n'est plus du tout dans l'analyse équilibrée des événements. On est dans le pamphlet, dans la grande polémique, une grande polémique qui bientôt va aller du côté flirter dangereusement, si je puis dire, avec la mystification.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Augustin Barruel et aux Illuminés de Bavière.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand, Augustin Barruel et aux Illuminés de Bavière.
Alors vous avez bien compris que notre abbé Barruel est pour le moins critique, c'est un polémiste en diable. C'est surtout un homme très documenté, ça il ne faut pas le négliger. Il lit énormément, il s'informe auprès de toutes les personnes qu'il peut rencontrer, notamment un physicien britannique qui connaît bien les philosophes des Lumières, un pasteur, lui-même franc-maçon et pourtant ennemi des Illuminés, on va entrer dans ce détail-là dans un instant. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que Barruel affirme avoir été lui-même initié aux trois premiers grades de la franc-maçonnerie au cours d'une soirée, ce qui à l'époque d'ailleurs était une pratique assez courante. Alors voilà ce qu'il dit, il le décrit lui-même, je le cite. « Avec tout le zèle ordinaire aux jeunes adeptes, ils me sollicitaient de me faire inscrire dans leur confrérie. Sur mon refus constant, ils prirent le parti de m'enrôler malgré moi. La partie fut liée. On m'invite à dîner chez un ami, je me trouve seul profane au milieu des maçons. Le repas terminé, les domestiques renvoyés, on propose de se former en loge et de m'initier. Je persiste dans mon refus, et surtout dans celui de faire le serment, de garder un secret dont l'objet m'est inconnu. On me dispense de ce serment. Je résiste encore, on me presse, surtout en me disant qu'il n'y a pas le moindre mal dans la maçonnerie, que la morale en est excellente. Je réponds en demandant si elle vaut mieux que celle de l'Évangile. » Au lieu de répliquer, on se forme en loge, et alors commencent toutes ces singeries ou ces cérémonies puériles que l'on trouve décrites dans divers livres maçonniques. Je cherche à m'échapper, l'appartement est vaste, la maison écartée, les domestiques ont le mot, toutes les portes sont fermées. Décidément, on a l'impression d'un complot terrible. Il faut bien se résoudre, à moins d'être passif à laisser faire. On m'interroge, je réponds presque tout à tout en riant, me voilà déclaré apprenti et tout de suite compagnon, bientôt même. C'est un troisième grade, c'est celui de maître qu'il faut me conférer. Ici, l'on me conduit dans une vaste salle, la scène change et devient plus sérieuse. Est-ce que la narration que donne l'abbé Baruel de tout ça est en soi très sérieuse? Nous essaierons de le savoir dans un instant avec mes invités. Alors, ce qui est certain, c'est que l'abbé Baruel, je vous l'ai dit, est très compétent sur la question. Il trouve par exemple une correspondance de Voltaire en 1761, Voltaire à D'Alembert, et on lit « Que les philosophes fassent une confrérie comme les francs-maçons, qu'ils s'assemblent, qu'ils se soutiennent, qu'ils soient fidèles à leur confrérie, et alors je me fais brûler pour eux. Cette académie secrète vaudra mieux que l'académie d'Athènes et toutes celles de Paris ». Voilà ce que pensait Voltaire, qui d'ailleurs, vous le savez, a été initié à la loge des Neuf Sœurs. Et puis, Baruel, par ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est là qu'on voit qu'il n'est quand même pas, il ne fait pas une caricature, il essaie de distinguer entre les différentes loges maçonniques. Dans le deuxième tome, il parle du rôle de la franc-maçonnerie dans la préparation de la Révolution française, c'est ça son véritable propos, bien entendu, mais il prend la défense des francs-maçons anglais qui avaient créé la première loge en 1717. Pour Baruel, les élites de la franc-maçonnerie sont bien les responsables d'une sorte de complot. Ça y est, j'ai prononcé le mot. Mais pas les premiers grades d'apprenti, de compagnon, de maître maçon. Seuls les gens de haut grade, en quelque sorte, seraient responsables. Et tout particulièrement les illuminés de Bavière. Et ben voilà, nous y sommes. Qui sont-ils, ces illuminés de Bavière, dont l'ordre a été inauguré en 1776 ? Leur doctrine consiste à dire, en gros, je vais un peu vite, que le christianisme n'est fondé que sur l'imposture et la superstition, et le déisme, la religion et la raison, ou le naturalisme est la vraie religion. C'est en tout cas la description qu'en donne, non pas l'abbé Baruel lui-même, mais un de ses disciples. Au début, c'est un ordre marginal, en quelque sorte, qui va ensuite se développer grâce à une fusion avec les francs-maçons en 1781. Alors là, on peut dire qu'il y a une sorte de développement à travers toute l'Europe, notamment en Suisse, en France, le pays qui, à l'époque, compte déjà le plus grand nombre de loges maçonniques. L'ordre compte plus de 300 membres de tous les horizons, y compris des étudiants, des commerçants, des médecins, des avocats, des juges, des professeurs, etc., des banquiers, des ministres du culte. L'ordre ensuite va être interdit par un édit du gouvernement bavarois en 1785, et pour Baruel, c'est à ce moment-là que le mouvement s'est désintégré et que, étant désintégré, il s'est en quelque sorte diffusé partout en Europe. Alors, sur la liste des illuminés, remise par l'ambassadeur de Bavière au comte Lébar, on trouve le prince français Philippe Égalité, le duc d'Orléans, qui a présidé le Grand Orient. On trouve Necre, le grand ministre. On trouve Lafayette. On trouve Mirabeau. Enfin, des gens comme ça. Le fondateur des illuminés de Bavière, c'est un certain Adam Weishaupt. Il était né, lui, en 1748. Philosophe, théologien, professeur de droit, etc. Baruel nous le décrit littéralement comme le diable. Est-ce qu'il a raison de le faire? Eh bien là, je vais poser la question à des personnes autrement compétentes que moi pour en juger. Éric Giacometti, Jacques Ravenne, tous les deux dans ce studio pour essayer de nous éclairer sur les illuminés.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Illuminati avec vos invités, Éric Giacometti et Jacques Ravenne, auteurs du thriller Le règne des Illuminati aux éditions Fleuve Noir.
Alors avant de revenir à notre personnage d'Augustin Baruel, j'aimerais, messieurs, que vous nous disiez un peu ce qu'il faut penser des fameux illuminés de Bavière et de ce personnage d'Adam Weishaupt qui était en quelque sorte leur... Est-ce qu'on peut dire qu'il était leur fondateur, Jacques Ravenne ?
Alors effectivement, c'est Adam Weishaupt qui est le fondateur des Illuminés de Bavière, mais quand De Baruel le présente comme un diable, je pense que c'est un petit diablotin de sacristie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'ordre a été dissous, en 1785, Baruel a fui, est allé continuer sa carrière d'universitaire très tranquille et n'a jamais plus en fait parler de lui. Non, il a eu une bonne idée, effectivement, une idée pré-révolutionnaire de constituer un petit groupe.
Adam Weishaupt,
oui, de constituer un petit groupe. Et puis après, il a eu deux excellentes idées. Il a recruté une personnalité maçonnique dont le grand rêve était de constituer des hauts grades, qui était le baron Gnidj, c'est un gradolâtre, comme on l'appelait. Donc, il a fait une société paramaçonnique, ça lui a permis de recruter. Et ensuite, il a recruté une autre personne qui s'appelle Bod, qui était l'éditeur de Goethe, qui lui a permis de toucher les cercles intellectuels. Mais il faut bien avouer que tout cela n'a pas abouti, et au moins en Bavière et en Allemagne, une fois que l'ordre est dissous, il n'existe plus.
Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle les illuminés ? Quand on emploie ce terme d'illuminés, Eric Giacometti, d'habitude, c'est plutôt péjoratif. Et là, ça n'est pas du tout péjoratif.
Au contraire, c'est l'illumination par la raison. Voilà. On est vraiment dans le siècle des Lumières. Il fallait, vous savez, les Illuminati de Bavière, c'est la première société secrète subversive authentique. On pourrait dire un peu, c'était le Robespierre ou le Lénine de l'époque, avant l'heure. Et donc, pour lui, surtout pas d'ésotérisme, surtout pas de spiritualité, non, du tout. Donc, quand on parle des Illuminati, oui, c'est l'illumination par la raison.
Mais alors, ce que vous êtes en train de me dire, en gros, c'est que quelque part, notre abbé Barbel n'avait pas entièrement tort en leur prêtant les pires desseins contre les ordres monarchiques alors en faveur.
C'était tout à fait exact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'anéantissement de l'ordre des Illuminés de Bavière, ça a eu quand même un retentissement dans les cours d'Europe, parce que on a eu quand même à l'époque, dans les gazettes, on en a parlé. Avant Baruel, il y a eu quand même des missives, on a eu quelques pamphlets qui ont surgi, donc Baruel a fait un peu de la récup aussi, il faut bien le dire. Mais effectivement, là, c'est tout à fait clair, et Weissaup ne s'est jamais caché. D'ailleurs, son surnom, c'était Spartacus en loge.
Ah oui, donc voilà, il allait loin. Il était un véritable ferment de révolution, en quelque sorte, Jack Raven.
Alors, un ferment de révolution sur lequel de Baruel n'a pas raconté que des bêtises, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. Non,
en fait, je suis en train de découvrir là que vous allez me dire que moi, ce Baruel, j'ai essayé de le présenter avec les plus grandes pincettes possibles, mais vous me dites que ce qu'il dit n'est pas si faux que ça, somme toute.
C'est des pincettes rougies avec lequel il faut le présenter, parce que sous ces dors bonhommes dont je parlais tout à l'heure, effectivement, ce Baruel, il a eu en main des textes qu'à l'époque on n'a pas retrouvé, et dont on a dit pendant très longtemps qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, ces textes-là, on les a. On a en particulier la correspondance et des journaux intimes des membres des Illuminati allemands, et on sait aujourd'hui qu'ils ont largement influencé des secteurs de haut grade de la maçonnerie dans les années 1785-1789, à travers ce fameux Bod, qui laisse d'ailleurs des carnets, et à travers une loge maçonnique qui s'appelle les Philalettes, dont on retrouvera beaucoup de membres dans les premières étapes de la Révolution. Et chose amusante, si vous regardez le bouquin de Baruel, vous apercevez qu'il était très renseigné sur ce Philalette. Il en parle sur 4 pages, il donne même leur adresse.
Ah oui, c'est assez... Donc c'était une sorte de journaliste, d'investigateur de l'époque, d'une certaine manière, avec un a priori très négatif, certes, mais qui en tout cas était particulièrement bien renseigné, qui avait les bonnes sources. Alors on ne va pas refaire l'histoire de la franc-maçonnerie, on l'a d'ailleurs un peu faite avec vous déjà à ce micro, Jacques Raven, mais ce qu'il faut rappeler en gros, c'est que tout naît plutôt en Angleterre, et que là, on est en Allemagne, presque un siècle plus tard, en fait.
Oui, une soixantaine d'années plus tard, oui. Avec une particularité qui est amusante, c'est que les francs-maçons allemands, qui ne faisaient pas de politique, qui ne s'intéressaient pas à ces questions, ont très vite pris ombrage de Weissaup, et parmi les hypothèses de sa dénonciation, on pense parfois que ce sont les frères qui s'en sont chargés.
L'abbé emploie, notre Baruel, là, emploie le terme constamment, d'ailleurs à longueur de page, de « secte ». Est-ce qu'il s'agit d'une loge maçonnique, ces illuminés dits bavarois, parce qu'en fait ça essaime même un peu au-delà, ou est-ce que c'est véritablement une secte qui se fait passer pour une loge maçonnique ?
Alors, on peut dire que c'est une secte idéologique qui ressemble à la maçonnerie. C'est un petit peu le Canada Dry de l'époque.
C'est important de bien le dire, parce que ça leur donne évidemment une toute autre dimension.
Tout à fait.
Or, ils sont dissous en 1785. Pour quelle raison, d'ailleurs, Éric Giacometti ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Subversion. Ah oui. On a découvert leur plan. Voilà, le grand électeur de Bavière a été très bien renseigné. Donc, il savait qu'il avait affaire à des révolutionnaires avant l'heure. Là où je me permets d'intervenir, moi, je ne vois pas du tout comme journaliste d'investigation, le père Baruel. Pour moi, je suis désolé, c'est l'ancêtre de tous les conspirationnistes. On a là le premier best-seller conspirationniste, parce qu'il prend du vrai, et c'est son interprétation, il va en faire du faux. Ah, c'est bon, là où c'est dangereux.
Non, mais alors c'est fondamental ce que vous dites, parce que si vous voulez d'ailleurs, je vous propose toute cette question du conspirationnisme, toute cette création de mythes et de légendes, on va en parler dans la deuxième partie de notre débat. Et là, il y a vraiment des choses fondamentales à dire. Mais tout de même et tout de suite, vous nous dites qu'il était certes bien renseigné, travaillait, mais que les conclusions qu'il tirait n'étaient pas justes.
Ah non seulement elles n'étaient pas justes, mais elles étaient orientées. C'est à partir de là, de Barwell, que va naître le fameux complot maçonnique, voilà, qui va se répandre et qui va devenir après le complot judéo-maçonnique. Et on voit ce que c'est devenu.
On sait ce que c'est devenu. Donc, au XXe siècle. Oui. Et même parfois, pourquoi pas, au XXIe siècle. Alors, ces illuminés de Bavière sont dissous en 1785. Et là, Barwell nous dit, c'est à partir du moment où leur ordre, en quelque sorte, n'existe plus, ou leur loge, ou leur... qu'ils vont se répandre à travers la société et que ça va créer ce qui donnera naissance à la Révolution française. Ce qui a l'air de lui donner raison, c'est la concordance d'époque. C'est-à-dire que l'ordre est dissous en 1785, or les premiers soubresauts de la Révolution française, c'est 1786. On a envie de dire, c'est quand même curieux.
Et on retrouve un certain Illuminati à Paris entre 1785 et 1789, fréquentant activement les loges maçonniques. Oui.
Et parmi eux, des noms très célèbres. Hein.
Alors, des noms très célèbres, mais sur lesquels les preuves textuelles manquent, bien sûr. Mais on peut penser à Mirabeau, par exemple, peut-être Laclos. Ce n'est pas impossible du tout. Mais surtout, et c'est amusant, il fréquente des loges qui sont composées à 75% de financiers. Et on retrouvera ces noms ensuite autour de Nègre. Voilà.
Est-ce qu'il y a par la suite, au XIXe siècle notamment, ou encore plus tard, des gens qui se réclament directement de ces Illuminati?
Oui, alors on a eu des loges, des petites loges qui ont gardé, on a les termes Illuminati, en Allemagne, à Berlin, un petit peu en France. Vous avez aussi un autre courant qui est peu connu de la maçonnerie, alors là qui se réclame d'un illuminisme et qui n'a rien à voir avec les Illuminati, où là c'est très ésotérique, mais là où ça va jaillir, c'est aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on a même une lettre de George Washington, le premier président des États-Unis, qui répond à un pamphlétaire en disant « Je suis au courant de l'existence des Illuminati, je vous rassure, ils n'ont pas réussi à infiltrer la Révolution américaine. » Je crois que cette lettre est à la bibliothèque du Congrès.
Alors, est-ce qu'il y a dans les origines, dans les inspirations de la Révolution, plusieurs sources en quelque sorte, et est-ce qu'il serait possible parmi les acquis ou parmi les bouleversements révolutionnaires d'identifier ceux qui sont directement les héritiers des Illuminés de Bavière?
Quand vous lisez les textes de Weishaupt, qui est un rousseauiste acharné et un déiste convaincu, la personnalité la plus proche dans la Révolution française par ses écrits et par ses actes, c'est Robespierre.
Ah oui,
ah oui, c'est évident, oui. Mais Robespierre qui était lui, l'ennemi juré de toute tentative de complot, puisqu'il voulait une république de la transparence. Vous savez quand même que c'est sous Robespierre que le grand maître du Grand Orient a été guillotiné. Et on oublie souvent de le dire, il n'y a pas qu'à Vichy, c'est cette époque aussi où la franc-maçonnerie a été interdite.
Eh oui, c'était les deux périodes d'interdiction.
C'est les deux périodes d'interdiction réelles, oui. Donc on se souvient plutôt de Vichy que de la République.
La terreur robespierriste et bien sûr le régime de Vichy, ça on le sait. Donc... je pense que c'était bien de revenir comme ça sur ces illuminés et sur l'origine même du phénomène. Maintenant, effectivement, nous allons entrer dans tout ce qu'on a pu broder à partir de cette trame et dans la théorie conspirationniste. Nous y voilà, en tout cas, nous y voilà dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les Illuminati sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités Éric Giacometti et Jacques Raven, auteurs du thriller Le règne des Illuminati aux éditions Fleuve Noir.
Oui, au Fleuve Noir, évidemment, Giacometti, Raven, encore un best-seller là, évidemment, puisque vous êtes au cœur, je dis évidemment, je salue tous ceux que vous avez déjà publiés et votre talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine et puis aussi votre talent pour aller là où ça se passe, si je puis dire, parce qu'il y a un phénomène depuis maintenant plusieurs années qui concerne surtout les jeunes générations. Moi, je suis un peu trop vieux, j'ai envie de dire ça m'est passé au-dessus ou en dessous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas vu venir ça. Mais j'ai l'impression, pour avoir depuis quelques jours, sachant que j'allais faire cette émission, j'en parle un peu autour de moi, chez des gens nettement plus jeunes. Et alors, visiblement, non seulement ils sont tous très au courant, mais cette histoire d'Illuminati, de complot, d'organisation planétaire, ils sont totalement, ils baignent là-dedans, si je puis dire. Ça vient d'où, d'Internet, cette histoire, Éric Giacometti?
Alors, il faut savoir, selon un sondage Ipsos, que notre éditeur a commandé, un jeune sur trois y croit et un Français sur cinq. Ouais, c'est un sondage béton. Bon, en France, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? parce que la culture populaire s'en est emparée. Les chanteuses comme Beyoncé, Rihanna. Il y a eu un concert de Beyoncé et Jay-Z il y a quelques jours. Ils font le signe l'œil dans le triangle. On peut le voir. Ils le font sciemment. Et vous avez des millions de gamins qui croient que c'est un signe pour les Illuminati. Lady Gaga, Madonna, c'est un élément marketing dans cette culture populaire. Et vous rajoutez à ça une culture conspirationniste, paranoïaque, qui monte depuis des années, amplifiée par Internet, un refus de la parole des journalistes et des médias officiels qui fait que maintenant, oui, pour beaucoup de monde, on croit qu'il y a une société secrète qui gouverne le monde.
C'est cette fameuse usure de la parole qui affecte d'abord, évidemment, le personnel politique, mais aussi très largement le personnel médiatique, il ne faut jamais oublier de le dire. C'est-à-dire que on ne croit plus aux instances officielles et aux canaux habituels, en quelque sorte. Et on se dit, puisqu'on nous a menti sur tel et tel et tel sujet, et ça, c'est incontestable, qu'il y a quand même de grands sujets sur lesquels on ment gentiment au public, eh bien, ça veut dire qu'on nous ment sur tout et que donc, il y a une espèce d'organisation qui s'occuperait de régenter le monde. C'est ça l'idée, Jacques Ravel ?
L'idée, c'est que vous les avez là avec les Illuminati, ce qu'on appelle la mère de toutes les sociétés secrètes. Ah ouais, c'est-à-dire chaque groupe de pression, chaque groupe d'opposition, même chaque groupe de pouvoir peut y mettre son ennemi à l'intérieur. Et selon le pays où vous êtes, les Illuminati incarnent en fait le bouc émissaire du pays. Dans les années 70-80 aux États-Unis, c'était l'extrême droite américaine pour laquelle les Illuminati, c'était l'ONU, ils voulaient s'emparer du pays. C'est passé
les
en Europe.
Les Illuminati auraient leur quartier général à l'ONU, c'est ça, hein, c'est
oui,
ça
l'idée. Oui. On dit même à l'aéroport de Denver dans les sous-sols. Je vous donnerai pas l'étage.
Vous m'éclairez parce que Georgia nous demande via Twitter, parlez donc de l'aéroport de Denver du présent, auriez-vous peur, nous demande Georgia.
C'est-à-dire qu'il faut regarder l'aéroport Denver par Google Maps. Et là, évidemment, tout s'éclaire, les symboles des Illuminati apparaissent. Chose amusante tout à l'heure.
Mais je précise que vous êtes au second degré là quand même.
Hein. Même au troisième sans doute, oui. Et vous avez raison, il vaut mieux le préciser. Sait-on jamais.
Voilà, ça pourrait être pris et comme si c'était une vérité, c'est ça qui est...
C'est ça le problème. L'usure de la parole ne fonctionne dans tous les sens.
Oui, c'est ça, on est dans un langage à triple et à multiple détente même, hein, dans ce que Roland Barthes appelait la batmologie. Là. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui dit vrai ou faux, si les gens qui affirment telle ou telle vérité proclamée sont là pour prêcher le faux. Enfin, ça devient très complexe. Chacun, finalement, fait son petit marché là-dedans et choisit ce qui lui convient.
Chacun choisit son Illuminati comme adversaire.
Voilà, c'est ça, exactement. Qui sont ces jeunes qui croient aux Illuminati actuellement, Éric Giacometti ?
Alors, en France, énormément en banlieue, en périphérie, ce sont souvent des jeunes qui, à un moment donné, décrochent le système d'éducation. D'ailleurs, il y avait une excellente page dans Le Monde au mois de mars, où il y avait une remontée par les professeurs en disant, on ne sait plus répondre aux questions des gamins sur les Illuminati. En revanche, et c'est là que je prends le contrepoint, il y a des éléments troublants. Par exemple, vous avez dans les fantasmes, vous avez sur l'histoire du Bohemian Club aux États-Unis, qui est une sorte de club d'ultra-riches républicains qui se réunit devant une chouette géante de 12 mètres de haut, enflammée. Eh bien oui, ça c'est vrai. Et la chouette, c'était l'emblème des Illuminati. Donc vous voyez, il y a toujours une part de réalité. Dans le bouquin, on en parle, mais c'est vrai que ça existe.
Justement, revenons à ce livre, au règne des Illuminati. Vous êtes vous-même, si je puis dire, un vecteur de cette confusion, puisqu'il y a, comme chez l'abbé Barbel, chez vous, des éléments qui sont tout à fait authentiques et qui sont tirés de l'histoire, notamment des Illuminés de Bavière, etc. Et puis il y a une part, évidemment, purement fantasmée. C'est le principe même du livre, Jacques Ravel.
Oui, mais il y a deux choses dans ce livre. D'abord, quand on parle des Illuminati, qu'on les met en scène, si vous préférez, qu'on vous les représente, vous en enlevez quand même un petit peu la pulpe dangereuse. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Il vaut mieux en parler directement que laisser le phénomène sous-jacent. Et puis, secondement, c'est vrai que nous, on joue avec les codes. Mais quand on arrive à la fin, on donne toujours une explication qui, effectivement, est rationnelle, tire la route. Donc, il me semble bien que là, on s'écarte du fantasme. Ceci dit, les Illuminati aujourd'hui, tiennent un tel paysage médiatique et un tel paysage sur Internet que vous pouvez absolument affirmer tout et n'importe quoi sans que plus personne y retrouve, ces petits.
Oui, mais alors, là, pardon, mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça ne sert pas, ça ? Alors là, il y a des gens qui vont dire, ça y est, Franck Ferrand est en train de partir de l'autre côté, mais est-ce que ça ne sert pas aussi les intérêts de ceux qui ont intérêt à cacher des choses parfois très graves ? C'est-à-dire qu'à force de multiplier les idioties, les références complètement bidons, etc., on finit par décrédibiliser toute remise en cause d'une vérité établie aussi. C'est-à-dire que dès que vous allez dire « Oh, mais peut-être que tel ou tel aspect n'est pas exactement ce qu'on croit », on dit « Oh, mais vous êtes conspirationniste ». C'est devenu une arme aussi, ça, c'est terrible.
Vous avez le cas classique du groupe Bilderberg.
Voilà, par exemple.
Où il y a eu une mission.
Parlez de cette conférence Bilderberg.
Oui, oui. Le groupe Bilderberg est une sorte de Davos,
oui, voilà,
un peu plus clandestin, un peu
une
plus
réunion
occulte,
de personnalités très importantes.
De personnalités très importantes à la croisée du politique, de l'économique et des intellectuels. Il y a quelques années, dans une émission de télévision que j'aurais la charité de ne pas nommer, un spectateur a demandé à des journalistes dits de référence ce qu'ils pensaient du groupe Bilderberg et la réponse a été un gigantesque éclat de rire en disant ça n'existe pas. Or, ça existe.
Quand même, oui,
le problème est que quand le journaliste dit ça n'existe pas, ben, le lecteur dit soit il me prend pour un imbécile, premier cas de figure, soit il en fait partie. Et c'est là où la mécanique s'enclenche.
Oh là là, c'est terrible en fait. Comment est-ce qu'on peut en quelque sorte faire le tri du vrai et du moins vrai dans ces questions?
Alors,
Eric Giacometti.
Dans nos bouquins, à la fin, on dit toujours voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux.
Oui, vous avez raison. Hein,
on n'est pas dans Dan Brown en disant tout ce qu'on vous dit c'est vrai.
Oh, mon
non,
Dieu,
pas du
oui.
tout. Voilà. Oui. On est très clair. Deux, en revanche, moi je suis journaliste à la base, je ne peux que constater qu'une chose, ce sont des sujets dont les médias ne se sont pas emparés réellement. Par exemple, le Bohemian Club, je rêverais de voir une équipe d'investigation enquêter. Alors résultat des courses, comme les journalistes ne veulent pas y aller parce qu'eux-mêmes ne veulent pas se faire traiter de conspirationnistes, vous laissez la porte ouverte à n'importe qui peut dire n'importe quoi. Une sorte de Rémi Gaillard avant l'heure.
Eh bien voilà, vous redites ce que j'étais en train de dénoncer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à force de laisser ces sujets à des rigolos, eh bien on finit par ne plus s'intéresser à de véritables questions.
Ceci étant, il faut leur reconnaître une chose. Par exemple, la seule vidéo qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur du Bohemian Club avec cette chouette géante...
Il faut expliquer ce qu'est le Bohemian
Club. Alors, c'est un groupe qui a été fondé en 1872 aux États-Unis qui rassemble l'aristocratie républicaine américaine. Vous avez eu des présidents Bush, Nixon, Reagan, le fondateur du FBI, J. Edgar Hoover. Il y a avec des conférences qui tiennent la route. On a parlé de l'invasion de l'Irak un an avant l'invasion de l'Irak. Donc là, il y a des choses quand même troublantes, effectivement. Le seul qui est allé mettre ses pieds là-bas en filmant, c'était un conspirationniste, Alex Jones. Donc lui, il a fait le boulot. Le problème, c'est l'interprétation qu'il en fait.
Et voilà. Je dis toujours, là, pardon de me citer décidément aujourd'hui, mais parce qu'on est sur un sujet qui me tient à cœur. Je dis toujours, ce n'est pas parce que c'est le fou du village qui crie au feu qu'il faut forcément détourner le regard. Il a le droit d'avoir vu un départ d'incendie. Alors après, ce que lui va faire du feu, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pas parce que c'est un fou du village qui parle qu'il faut forcément le décrédibiliser. On est sur des sujets qui sont complexes du coup, parce que évidemment on ne peut jamais rien écarter totalement et jamais rien admettre comme argent comptant, bien sûr. Alors revenons un tout petit peu à l'histoire, parce que quand même on fait de l'histoire dans cette émission. On a l'impression que les Illuminati tels qu'on les conçoit aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la franc-maçonnerie, Jacques Raven.
Ah, très clairement, aujourd'hui, les Illuminati apparaissent comme de véritables maîtres du monde dans une certaine partie de la population. Et il faut bien l'avouer, les francs-maçons comme des petits joueurs.
Oui,
maintenant,
c'est un peu les ancêtres.
Il suffit de voir, par exemple, quand vous faites des requêtes sur Google, vous tapez franc-maçon, ça fait 3 millions, vous tapez Illuminati, ça fait 12 millions. Alors, pour moi qui suis franc-maçon, je me sens un petit peu ringardisé.
Oui, c'est ça.
Dois-je l'avouer.
Petit joueur, en quelque sorte.
Oui.
Est-ce qu'il y a de grandes figures qui peuvent être citées, des personnages qui sont... vous avez cité Hoover, vous avez cité les Bush, père et fils, etc., qui faisaient partie d'un club tout à fait authentique et tout à fait répertorié. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été, dans l'histoire, je ne vous demande pas de faire de l'outing de personnalités vivantes, mais des grands personnages qui ont été suspectés d'être eux-mêmes des illuminés, de défendre ce flambeau, de porter ce flambeau des Illuminati?
Alors, si vous allez sur ce terrain-là, on peut dire à peu près toutes les personnalités connues, célèbres, ça va,
voilà.
De Napoléon à Hitler, en passant par Staline, j'en passe et des meilleurs. Justement, parce que les Illuminati n'existant pas, on peut leur coller cette étiquette. En revanche, il est vrai qu'il y a une frange, et c'est ça qui est passionnant, et ce qu'on a fait dans ce thriller, c'est-à-dire qu'il y a une frange au moment, avec le contact de la Révolution, où on pense que Mirabeau ou des gens comme ça, là, ça mériterait des investigations soutenues.
Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Pourquoi ce livre?
Mais on signait il y a 2 ans au Salon du Livre de Nice et puis des gamins sont venus, nous ont dit « Pourquoi vous ne parlez pas des Illuminati ?»
Et, voilà.
Et on s'est dit « Mais comment ça se fait que ce groupe qui a disparu au XVIIIe siècle ressurgisse ?» Et vous savez ce qui m'a troublé, c'est que nous on enquête, on est allé à la fois à la bibliothèque du Grand Orient pour lire l'intégralité de l'œuvre de Baruel. Et on lit ça, 3 jours plus tard, on va en banlieue pour rencontrer des jeunes qui y croient, on entend le même discours. Exactement le même discours, les Illuminati tiennent le monde et puis alors
c'est-à-dire
en plus
que oui. Les propos de l'abbé Baruel au XVIIIe siècle sont tenus aujourd'hui dans les banlieues
par des gamins genre de bac-4 à bac+4, attention,
oui, de tous les niveaux.
Mais le problème c'est que ça se en plus vous avez une connotation
politique derrière, parce que dessus, après, on va vous mettre la conspiration juive derrière. C'est là où il faut faire attention. Et là, étant journaliste moi-même, je peux vous le dire, les médias ont raté ça, n'ont pas étudié le phénomène. Il y a un vrai champ d'investigation là-dessus, parce que ça risque d'augmenter.
On a l'impression que tout ce qui est sulfureux, tout ce qui pourrait être l'objet de glissements ou de dérapages fait peur, tout simplement, à nos médias. Et ce sont des domaines entiers qui ont été abandonnés. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Et je pense qu'on gagnerait, évidemment, à réenquêter sur tout ça. Il y a des gens dont l'investigation est le métier, eh bien qu'ils fassent leur métier, qu'ils aillent enquêter sur les domaines qui justement passionnent le public et notamment le jeune public. Ça permettrait et de mettre en évidence certaines choses qui ne sont pas normales et surtout de dégonfler des baudruches extraordinaires. Giacometti Ravenne, Le règne des Illuminati, c'est un thriller bien entendu.
Mais Franck, vous en faites partie d'ailleurs.
Ah ben moi bien sûr, ouais, mais il fallait pas le dire. Et c'est au Fleuve Noir.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Amélie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir pourquoi on parle de la Hollande pour désigner les Pays-Bas.
Alors, c'est un abus de langage. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai la Hollande. Non, il faut dire les Pays-Bas. Et on parle, c'est pas les Hollandais, c'est les Néerlandais, bon, etc. Bon. En vérité, la Hollande, c'est une partie des Pays-Bas. Hein. C'est une province des anciens Pays-Bas espagnols au XVIe, XVIIe siècle. En 1648, à l'issue de la guerre de 30 ans et la signature du traité de Münster, la Hollande devient une province des Provinces Unies et un carrefour culturel, économique, politique. Alors, les grandes villes, c'est Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Leiden, Delft, Haarlem, bien entendu. À cette époque, la plupart des Européens parlent de la Hollande. C'est devenu l'habitude, au lieu de parler de la République des Provinces Unies, évidemment, la RPU. En 1839, le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui naît du Congrès de Vienne, hein, en 1815, devient le Royaume des Pays-Bas. Et l'année suivante, en 40, la Hollande est divisée en deux entités, la Hollande septentrionale et la Hollande méridionale. Aujourd'hui encore, on confond souvent la Hollande et les Pays-Bas. C'est parce que ces deux Hollandes sont les régions évidemment les plus dynamiques, les plus puissantes. C'est les régions centrales du pays qui accueillent toutes les principales villes, la capitale, les grands ports, etc. Néanmoins, il faut préciser, ça c'est notre petit plus historique, qu'il y a bien eu une époque où on a utilisé officiellement le terme de Hollande pour désigner les Pays-Bas. C'est en 1806, au moment où la République batave a été transformée par Napoléon Ier en Royaume de Hollande. D'ailleurs, il avait collé un de ses frères sur le trône. Et là, on parlait bien de Royaume de Hollande et de Roi de Hollande. C'était même plus un abus de langage. Heureux temps.